Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Est-ce que c'est de l'opportunisme politique? Est-ce que c'est sincère, la décision d'Aaron O'Toole, donc, de changer de capot, de virer au vert dans son attitude face à la taxe carbone? On va parler de tout ça avec Jean-François Lisée, ex-chef du Parti québécois, commentateur, auteur, journaliste. Jean-François, bonjour.
Bonjour, Sophie.
Est-ce que Aaron O'Toole est en train de faire du greenwashing, c'est-à-dire ces entreprises qui font semblant d'être pour l'environnement alors que ça leur passe 8 pieds par-dessus la tête?
Ben, lorsqu'on regarde le programme lui-même, s'il avait été publié par un autre parti il y a 15 ans, on aurait dit, ou il y a 10 ans, on aurait dit, c'est sérieux. C'est sérieux. Mmh. Évidemment, Greenpeace aurait dit, ça ne suffit pas. Mais ce n'est pas que de la décoration, comme Andrew Scheer, par exemple, pouvait dire que c'est de la décoration pour pouvoir dire quelque chose. Mais le plan qu'il a déposé, ce qui est extraordinairement nouveau pour le Parti conservateur, c'est qu'il impose une tarification au carbone, ce qui est une façon nécessaire de réduire l'empreinte carbone des sociétés, et que jusqu'à la veille, le Parti conservateur avait fait campagne constamment en disant qu'il ne fallait pas tarifier le carbone ou le taxer ou quoi que ce soit. Et même, moi, j'avais dénoncé les publicités mensongères qui avaient été faites par les conservateurs lors des dernières élections au Québec en particulier, parce que nous, comme on a notre bourse du carbone, on n'a pas la taxe carbone des fédéraux.
Voilà.
Et ils nous disaient dans des publicités télé qu'on allait payer plus cher à la pompe à cause de la taxe fédérale, ce qui était faux. Alors, donc, ils avaient aucune inhibition dans leur idée d'être contre la taxe. Puis, ils n'étaient pas contre le niveau de la taxe, ils étaient contre le principe de la taxe.
Exactement.
Et ça fait 15 ans qu'ils disaient ça. Alors, le changement, il est majeur. D'un point de vue écologiste, on dit, bon, ben enfin, maintenant, les quatre grands partis sont sérieux. Ils n'en font pas assez, mais ils sont sérieux. Et il y a des éléments dans la plateforme d'O'Toole qui va plus loin que ce que dit les libéraux, par exemple. Il est favorable à ce qu'on ait une tarification pour les importations étrangères de produits qui n'ont pas de taxe carbone ou qui ont une empreinte carbone qui est plus basse. Par exemple, nous ici, notre aluminium est concurrencé par l'aluminium chinois où la composition carbone dans la production est beaucoup plus élevée. Ben lui, il dit on va les taxer tant qu'ils prennent plus de carbone que nous pour faire leur aluminium. Ça va coûter plus cher à l'entrée. C'est une idée que les écolos défendent depuis des décennies. Et là, c'est dans le programme conservateur. Alors, il faut dire, c'est une bonne idée. Évidemment, est-ce qu'il y a un objectif politique? Oui, il aimerait ça être premier ministre. Il aimerait ça être premier ministre. Puis il se dit, ben, en 2021, tu ne peux pas avoir une majorité, tu peux pas aller chercher. Lui, ce qu'il veut, c'est plus d'électeurs au Québec et plus d'électeurs en Ontario qui sont plus soucieux de l'environnement qu'évidemment tous les électeurs qu'il a, lui, en Alberta et en Saskatchewan. Et il veut leur dire, ben, si l'absence de plan environnemental vous empêchait, c'était la chose qui vous empêchait de voter pour nous, ben maintenant, vous allez pouvoir voter pour nous.
Oui, mais en même temps, oui, c'est ça, parce que tu l'as mentionné, ces électeurs en Alberta, évidemment, en Alberta, on est plutôt, on aurait plutôt tendance soit à être climato-sceptique, ou sans en faire une caricature, on a tendance, en tout cas, c'est sûr, à pas aimer ce genre de mesures pro-environnement. Donc, c'est vraiment, à la base, d'après toi, purement électoral. Donc, il a regardé les chiffres en disant combien de nouveaux électeurs je peux aller chercher sans trop en perdre. Il a fait 2 plus 2 égale 4, puis voilà. Mais est-ce que ça correspond uniquement à une manœuvre électorale ou il y a une certaine sincérité de sa part, d'après toi?
À la fin, peu importe.
Oui.
À la fin, si on veut sauver la planète...
Oui, c'est vrai que dans le fond, on s'en fout. Oui.
si on veut sauver la planète, tout est bon pour sauver la planète. Mais tu as raison de souligner que les conservateurs de l'Ouest sont réfractaires. Il y a trois semaines, il y a eu un congrès où 54% de ses délégués ont voté contre une résolution qui disait que le changement climatique était vrai. Ça veut dire que 54% de ses délégués disent que c'est pas vrai. Et oui. Là, il se retrouve avec un plan dont la première phrase, c'est « le changement climatique est vrai ». Alors, la question qui se pose, c'est quelle sera l'ampleur de la révolte interne des conservateurs contre ce retournement? Et on pouvait penser que M. O'Toole avait préparé ses arrières, mais des journalistes disent qu'il n'avait même pas consulté son caucus de députés qui ont été pris par surprise.
Mais ça, c'est un peu impardonnable.
C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, là, c'est vraiment, on appelle ça du brinkmanship, c'est-à-dire de poser un geste à côté du précipice en se disant, c'est le seul geste que je peux poser pour forcer le jeu. Et là, je vais triompher ou mourir. Et je suppose que son calcul, c'était, si je le soumets à mon caucus, c'est sûr qu'il y a une partie du caucus qui va être contre, ça va couler, bon, etc. Donc, la seule chance que j'ai de les obliger à me suivre, c'est de les mettre devant le fait accompli, ce qui est très dangereux, mais parfois, ça marche. Mm-hmm. Et peut-être que ces options étaient très limitées. Mais on a vu que les conservateurs, souvent, peuvent se révolter. Regarde, Jason Kenney en Alberta, il y a 15 de ses députés qui ont signé une lettre publique pour dénoncer sa politique en matière de gestion de la pandémie. Alors, si on devait avoir une vraie fracture au sein du caucus conservateur, une révolte au sein du parti, ben ça n'aurait pas marché, son affaire. T'sais. Alors, c'est ça le danger qui le guette, quelle est l'ampleur donc de la révolte au sein du Parti conservateur, ce qui nous amène à parler de ton sujet favori,
Maxime Bernier. Alors, je veux juste expliquer un petit truc avant qu'on se mette à parler de Maxime Bernier, mais c'est que donc, moi, je le suis sur Twitter, puis bon, je trouve ça assez amusant ce qu'il a retweeté. Écoute, il y a même pas 24 heures. C'est un analyste qui dit, écoutez, 50% des Canadiens sont contre une taxe carbone. Pourtant, on se retrouve maintenant avec les conservateurs, avec la situation où chaque parti présent au Parlement canadien appuie la taxe carbone. Alors, comment se fait-il qu'il y ait une telle déconnexion entre la classe politique et la base et l'ensemble des Canadiens? Et Maxime Bernier a simplement retweeté ça en disant « yep ». Donc, ça traduit le fond de sa pensée, parce que lui, s'il avait été élu chez les conservateurs, ben certainement qu'il aurait jamais fait la manœuvre que vient de faire Erin O'Toole.
Exact. Alors donc, c'est vrai qu'il y a une base politique qui est contre la taxe carbone, et pour un petit parti, pour un micro-parti comme celui de Maxime Bernier, qui veut croître, pour lui, c'est une aubaine extraordinaire.
Ben oui.
Parce qu'il il a quitté le Parti conservateur en disant, les chefs conservateurs, lui, c'était Scheer, et il disait, mais c'est en train de se transformer en parti libéral diète. C'est liberal light, ils disent en anglais. Et là, il y a un argument supplémentaire pour le dire. Alors, il a toujours voulu, mais il y a un argument supplémentaire pour dire les vrais conservateurs viennent dans mon parti.
Voilà, les orphelins politiques là, qui se reconnaissent plus dans le parti conservateur tel que lui le conçoit, avec une moins grande évidemment intervention de l'État et tout, ben ils vont se retourner vers le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier théoriquement.
Exact. Alors, c'est son pari. Alors, sur la taxe carbone, sur les questions sociales, l'avortement, etc., lui, il dit que vous êtes libre de faire la promotion de l'anti-avortement au sein de mon parti. Et là, hier, en conférence de presse, il voulait devenir le héros de l'anti-vaccination. Là, déjà, il faisait partie des statistiques l'ensemble des mesures.
Oui. Excuse-moi deux secondes, Jean-François, parce que tu connais comme moi l'importance des mots. On peut pas vraiment dire que Maxime Bernier est anti-vaccin, parce que quand même, toute le préambule à sa discussion, ça a été de dire, écoutez, je pense que les gens devraient se faire vacciner, mais moi, personnellement, Maxime Bernier, ceux qui le veulent, donc il est anti-vaccination obligatoire. Mais de toute façon, il n'y a pas de vaccination obligatoire au Canada. Mais exact. Je trouve que il faut faire attention, je pense que ce serait réducteur de dire qu'il est anti-vaccin.
Tu as raison. Mais en même temps, il se positionne en disant, moi, j'ai 58 ans, je suis en pleine forme, je mange des carottes, donc j'ai pas de raison d'être vacciné. Alors, en disant cela, il s'adresse à tous ceux qui pensent que la vaccination n'est pas nécessaire, ou même à ceux qui sont contre. Même s'il dit, allez-y, ben, je suis pas contre. Mais il se définit comme l'archétype de celui qui ne va pas se vacciner. Donc, ceux qui sont sceptiques face à ça se tournent vers lui, c'est leur meilleur représentant. Voilà. Et là, il fait une coalition avec d'autres élus au Canada qui partagent son scepticisme et sur les mesures de confinement. Donc, il est contre les mesures de confinement.
Et, il appelle ça l'hystérie sanitaire. Exact. C'est le mot qu'il utilise.
Et il y a même des religieux, là. Alors, c'est intéressant parce qu'il s'adresse à la base religieuse. Il y avait un religieux qui disait, vous savez, la science, c'est une chose, mais il faut aussi suivre la foi. Alors, si on a la foi dans un Dieu qui va nous protéger contre la COVID, donc on n'a peut-être pas besoin ni du confinement, ni du vaccin. Donc, il travaille très fort pour essayer de coaliser l'ensemble des sceptiques et l'ensemble des conservateurs qui vont se sentir orphelins du parti. Ça n'a pas marché la dernière fois parce que la détestation de Justin Trudeau de la part de la base conservatrice et des électeurs conservateurs est telle que même s'ils étaient en désaccord, même s'ils étaient pas satisfaits du leadership conservateur, ils disaient, ben, il n'y a pas de chance à prendre. Il faut se débarrasser de Trudeau. Là, il peut y avoir une dynamique où si ces électeurs-là se rendent compte que Trudeau va gagner de toute façon, ben là, ils peuvent voter avec leur cœur plutôt qu'avec leur raison, puis dire, bon, ben, puisque Trudeau va gagner, je suis aussi bien de voter pour un vrai conservateur comme Bernier. Et donc, sa capacité, je dis pas là qu'il va avoir 15 députés, mais sa capacité de croissance est peut-être va être supérieure, probablement, que la dernière fois.
Oui, et ce qui est très important de dire à propos de Maxime Bernier, puis je suis contente que tu l'aies souligné, en effet, la présence de ce pasteur à cette conférence de presse qu'ils ont faite hier, là, les anti-mesures sanitaires. L'autre chose qu'il faut mentionner à propos de Maxime Bernier, c'est que samedi, donc demain, il doit participer à un rassemblement à Barrie, en Ontario, et le maire de la ville de Barrie a dit, quasiment mis à genoux en suppliant de ne pas avoir ce rassemblement-là, parce que, écoute, le maire dit, c'est le pire moment. En Ontario, bientôt, il va peut-être y avoir 10 000 ou 12 000 cas par jour. La situation est complètement hors de contrôle. Ça n'est pas le moment de faire des rassemblements. Et t'attends mon Maxime Bernier qui arrive puis qui dit, ah, mais là, ça va être conférencier vedette, si tu veux, de ce rassemblement-là contre les mesures sanitaires et pour la liberté à Barrie. Ça frise l'inconscience quand même, Jean-François.
Ah oui, ben oui. Puis on espère pour lui qu'il attrapera pas le COVID. Mais effectivement, la situation sanitaire ontarienne est très grave. Moi, ça fait des mois que je dis, écoutez, lorsque les variants sont arrivés au Canada, sont d'abord arrivés en Ontario. C'est pas la faute des Ontariens, mais c'est le cas. Si on voulait se protéger, on avait arrêté les vols en provenance du Royaume-Uni, mais là, il était en Ontario. Je disais, on devrait fermer la frontière ontarienne. On a fermé la frontière américaine. Ça n'a pas été fait. Là, cette semaine, Mme Drouin, directrice de la santé publique de Montréal, a dit, ben, peut-être qu'il faudrait fermer la frontière avec l'Ontario. Tu sais, avec les gens qui sont des travailleurs essentiels ont des attestations pour traverser. La même chose avec les États-Unis. Mais tous les touristes, ceux qui n'ont pas d'affaires à venir, ce serait, il me semble, la mesure à prendre, parce que la situation sanitaire en Ontario, comme celle au Michigan d'ailleurs, qui est pas loin, est très grave. Mais ça, le gouvernement Legault semble, pour des raisons inexplicables, ne pas vouloir prendre cette précaution supplémentaire-là. C'est dommage.
Oui, mais je pense que tu dois continuer à marteler ça. Et moi, je t'appuie, je suis équipe lisée dans ce dossier-là, parce que ça suffit. Là, il faut pas refaire la même erreur. Tu sais, quand Justin Trudeau, au début de la pandémie, ne voulait pas fermer les frontières, fermer les vols qui venaient de l'étranger sous prétexte que le virus ne reconnaît pas ça des frontières. Ben non, il fait juste voyager sur des petits êtres humains qui prennent l'avion. Je veux dire, Je ne comprends pas, je ne m'explique pas, moi non plus, comme toi, d'où vient cette réticence du gouvernement Legault à fermer la frontière avec l'Ontario? Je la comprends pas.
Parce que c'est même pas économique, parce que c'est comme la frontière américaine, les biens traversent. Hein? C'est seulement ceux qui n'ont pas d'affaires à traverser qui sont bloqués. On peut faire la même chose avec l'Ontario. Alors, peut-être qu'il est tellement pro-canadien, notre ami François Legault, qu'il veut pas déclarer l'indépendance sanitaire du Québec, on va dire ça comme ça.
Et c'est un mot que toi, t'aimes bien. Écoute, Jean-François, merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine, mercredi. Passe une excellente fin de semaine, puis on se croise les doigts, évidemment. Personne souhaite ça, mais imaginons quand même l'ironie si Maxime Bernier devait contracter cette maladie-là, alors qu'il dit, ben moi, j'ai pas besoin de vaccin. Puis c'est un peu un argument bidon en plus, parce que c'est pas... Le vaccin, on le fait pas simplement pour soi, on le fait pour les autres. Donc, lui, il est en santé, il a 58 ans, mais son entourage, ses parents, ses voisins, ses collègues de travail, c'est vraiment assez bizarre. Bon, on salue Maxime. Bonjour, Monsieur Bernier, on vous salue, puis
on vous souhaite bonne
santé. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne santé, toi aussi, à la semaine prochaine.
Merci, salut.